un temps pour lire.
Nous allons fêter aujourd'hui le numéro 90 de la revue L'Alpe, une publication des éditions Glénat, qui a pour thématique « Montagne durable » avec un point d'interrogation. Nous allons parcourir cette revue en compagnie de Sophie Boisard, sa rédactrice en chef, qui est en ligne aujourd'hui avec nous. Sophie Boisard, bonjour. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur les ondes de Radio Semnose. Alors, dans votre éditorial de ce numéro de L'Alpe, vous dites qu'il aurait été différent si la Covid-19 n'était pas venue modifier nos existences. En quoi cela a-t-il réorienté le contenu de votre revue ?
Alors, c'est vrai que ce numéro-là, on l'a envisagé il y a plus d'un an. Il fait suite en fait à un numéro qu'on avait déjà publié en 2017, qui était consacré au climat. Et là, on voulait traiter de durabilité dans toute sa complexité. Et quand on a commencé à élaborer ce numéro, on était parti pour être un peu reporter d'espoir, pour véritablement mettre en avant des initiatives, des solutions positives, voilà. Et après, donc la Covid, comme nous le recommande l'Académie française, est passée par là. Et donc, on a eu de nouveau le sentiment de devoir à nouveau alerter. Et donc, cette dimension d'alerte, cette dimension presque de manifeste est devenue plus importante dans ce numéro, peut-être qu'elle ne l'était au départ.
Alors c'est sûr que nous sentons particulièrement concernés parce que nous vivons dans les Alpes, que en tout cas à Annecy, il y a une école d'art qui travaille sur l'effondrement des Alpes. Alors le sujet que vous abordez dans cette revue L'Alpe est évidemment en lien direct avec tout ce que nous vivons en ce moment. Il y a de nombreux points d'interrogation dans l'Alpe, cette fois-ci à commencer donc par le dossier. Et quand on voit la vitesse à laquelle la montagne évolue avec les glaciers qui fondent et la roche qui s'effondre, peut-on parler encore de montagne durable ? Sophie Boisard.
Alors c'est bien pour ça qu'on a mis un point d'interrogation après. C'était absolument indispensable. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on voulait refaire les ascensions de Gaston Rubuffa, le livre qui est paru en 1975, voilà, on ne pourrait plus les faire. Il suffit de comparer, comme j'ai pu le faire lors d'une randonnée cet été, deux cartes IGN de 1998 et 2018. Bien, voilà, les randonnées ne sont plus les mêmes. Beaucoup, beaucoup de glaciers de petite taille ont juste disparu et les grands s'amenuisent de façon comme peau de chagrin. Enfin, et donc c'est vrai que voilà, parler de la durabilité, en même temps, je trouvais important de garder le mot durable parce que néanmoins, il faut quand même qu'on essaye de contenir, on ne pourra pas inverser cette tendance-là, hein. Ce n'est plus possible, mais au moins contenir cette tendance du réchauffement climatique dans les objectifs fixés par l'accord de Paris.
Permettre à ce qui est là de durer encore, en tout cas.
Exactement, de travailler avec cet objectif du temps long aussi. Donc c'est ça que je trouve aussi quand même intéressant dans la notion de durable, c'est cette idée de politique ou de solution à long terme et d'essayer quand même de transmettre aux générations futures hein, tout ce qu'on peut encore. Ça c'est important, même si aujourd'hui c'est vrai que la notion de développement durable, et on y a consacré un article entier, peut sembler une notion obsolète. Asie qui a vécu, aujourd'hui on préfère parfois parler plutôt de transition à la fois sociétale et écologique plutôt que de développement durable, souvent en mettant en effet l'accent aussi sur l'oxymore entre développement et durabilité.
Alors évidemment, dans votre revue, la place des photos est toujours très très importante, toujours de superbes illustrations, c'est bien plus que cela d'ailleurs. Et vous soulignez donc, avec les photos qui s'y trouvent, que notre rapport à la nature, mais aussi particulièrement au temps, est bousculé. Nous qui avons tendance à vouloir toujours le maîtriser, est-ce que c'est possible, là encore, point d'interrogation ?
Oui, alors c'est vrai que pour l'iconographie de ce numéro, qui était assez difficile, on a énormément travaillé, on a cherché à essayer d'identifier le plus grand nombre d'éco-artistes alpins qui travaillent sur le sujet. C'est la question du compte à rebours pour les glaciers qui s'est imposé. Et c'est vrai que dans le portfolio, donc, on a mis en avant trois artistes suisses, Laurence Piaget-Dupuis, Marie Velardi, Jacques Pugin, qui tous ont également cette interrogation sur la temporalité. Il y a par exemple Laurence Piaget-Dupuis qui a mis en place une sorte d'archéologie du futur. En fait, elle a pris des photos d'un glacier et elle les a enfermées dans une sorte de boîte à archives, une sorte de capsule temporelle qui est aujourd'hui près d'un refuge dans le massif des Diablerets. Et cette boîte à archives, avec ses photos de glaciers à l'intérieur, elle y a mis également des objets à usage unique pour un petit peu dénoncer des dérives de notre société actuelle. Cette boîte à archives ne pourrait être ouverte qu'en 2060. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a vraiment, chez ces artistes-là, vraiment ce souhait de transmettre, ce souhait de témoigner, mais aussi aux générations futures. Alors, il y a d'autres démarches, notamment celle de Jacques Pugin, qui est l'inverse. Lui essaye de maîtriser, d'arrêter le temps en quelque sorte. Et donc, en fait, il il a photographié des glaciers à différents temps, et par un jeu de transparence, il essaie de remonter le temps et de reconstituer les glaciers tels qu'ils ont pu être il y a quelques années, en fait. Et c'est assez troublant, voilà. Et également, il y a le travail de Marie Velardi, qui aime beaucoup jouer avec les échelles d'espace, des échelles de temps, et qui avait mis en place à Sion, dans le Valais, une espèce de désorienteur temporel, où elle met en fait, de façon concomitante, une échelle de temps très courte, celle de notre temps quotidien, celle du visiteur du musée qui venait d'expérimenter cette installation, avec des temps géologiques, des temps très longs. Donc là, on retrouve des grands cycles climatiques, des grandes glaciations, des petites âges glaciaires, etc. Et puis, évidemment, une chronologie qui est celle de l'Anthropocène, avec une accélération du réchauffement climatique lié aux activités humaines, qui est représentée notamment par une ligne bleue du glacier du Rhône. Voilà, c'est des choses à expérimenter et à voir. Voilà, c'est un petit peu difficile à décrire, mais surtout à voir et expérimenter.
On peut soi-même d'ailleurs aller à Chamonix et s'apercevoir qu'il y a des marques et que ces marques indiquent la fonte du glacier. C'est tout à fait impressionnant aussi. Sophie Boisard, dans un article intitulé « Affronter l'impermanence », encore une fois, il y a une relation au temps, bien sûr, nous sommes invités à considérer la manière à laquelle les communautés alpines d'hier vivaient avec la montagne. Faut-il, selon vous, revenir en arrière ou au moins nous en inspirer peut-être ?
Alors, toujours cette peur, quand on parle de développement durable ou de durabilité, qu'on revienne à des temps paléolithiques. En fait, pour moi, il suffit juste de remonter à 2-3 générations pour retrouver, notamment dans les communautés rurales, alpines ou non, un sens de l'économie, mais au sens propre du terme, un sens de la frugalité, d'une gestion des ressources, non pas par idéologie, mais par besoin, et des notions de solidarité. Donc c'est vrai qu'on a voulu aussi prendre un petit peu de distance avec cet article de Jean-Claude Duclos, mise en perspective historique, en prenant quelques exemples de gestion des ressources naturelles alpines, notamment à Abriès, qui avait été étudié par l'anthropologue Harriet Rosenberg, ou également à Grèce en Vercors, où finalement l'État avait imposé la création d'une fruitière qui avait totalement perturbé en fait la gestion traditionnelle des ressources. L'idée dans cet article également, c'était de mettre en avant ce qu'on a pu appeler les petits métiers de récupération, les petits métiers d'entretien, comme les remouleurs, le rétameur, le ferblantier, qui font aujourd'hui écho à nos recycleries actuelles, qui essayent voilà, juste de récupérer des anciens objets, de redonner une seconde vie à des objets, à l'heure aujourd'hui de tant d'objets à l'obsolescence programmée.
Il y a d'ailleurs en deuxième page de votre couverture une photo qui est tout à fait savoureuse, enfin je laisse le soin au lecteur de la découvrir parce que c'est vraiment étonnant et ça donne des idées, je trouve. Nous l'avons vu cet été, la montagne a attiré beaucoup, même si le tourisme y est fragile et parfois peu raisonné ou raisonnable, je dirais. Quelles sont les perspectives, selon vous, sur ce plan-là, Sophie Boisard ?
Alors, on a consacré en effet donc un article sur la question des quatre saisons. On a essayé, avec François Carrel, d'organiser une espèce de table ronde en mettant autour de la table différents acteurs économiques et touristiques, également universitaires, intellectuels, associations également écologiques, qui s'intéressent à la question. Alors c'est vrai que ça fait 20 ans, enfin oui, au moins 20 ans que ces différents acteurs réfléchissent déjà en fait à une diversification du tourisme à la montagne et essayent déjà, parce que finalement la fréquentation touristique, elle est plus importante aujourd'hui en été qu'en hiver. Par contre, évidemment, le chiffre d'affaires n'est pas du tout le même entre le chiffre d'affaires qui est généré en hiver et en été. Et donc, je trouvais intéressant d'avoir un débat en fait entre ces différents acteurs qui ont des visions très différentes et qui essayent voilà, d'imaginer un tourisme de demain avec peut-être un meilleur dialogue entre les territoires, entre les vallées et les sommets, pour savoir aussi si on allait plutôt vers quel modèle en fait, de tourisme on allait. Est-ce qu'on va de nouveau vers un tourisme hors sol avec une course aux aménagements en prenant exactement le modèle qui était celle du plan neige et de création de ski ex nihilo pour un tourisme d'été, ou est-ce qu'on met davantage en valeur justement les valeurs de la montagne, l'environnement qui est absolument exceptionnel, voilà, vers où on va. Donc c'est vraiment l'objet de cet article.
Il y a des choix absolument essentiels là devant nous, qui sont pas si devant que ça, ils sont là déjà présents maintenant. Dans ce numéro 90 de l'Alpe, il est aussi question de nombreuses expositions, dont une sur la Suisse au siècle des Lumières à Lausanne, mais aussi celle du musée de l'ancien évêché de Grenoble intitulée « Calligraphies alpines », qui présente le travail du peintre et dessinateur Éric Alibert. Alors moi je trouve que c'est un champ avec un T à la fin, un champ pictural où l'encre noire prédomine de façon vive et magistrale. Il nous est dit qu'Éric Alibert, dans l'article, tente de saisir la nature en fuite. Encore une fuite, hein, encore quelque chose qui passe. La montagne ne cesse donc de nous échapper. Et pourtant, nous essayons d'en garder quelque chose, artistiquement parlant en particulier. C'est bien cela. Et c'est quelque chose qui ressort de ce numéro, je trouve, Sophie Boisard.
Exactement. En fait, cet article-là sur l'exposition, superbe exposition au musée de l'Ancien Évêché à Grenoble, avec des calligraphies d'Éric Alibert, c'est un travail qui recouvre 30 ans, 40 ans de travail, aurait très bien pu s'inscrire en fait dans notre dossier sur la montagne durable, parce qu'en effet, Éric Alibert essaie de saisir cette impermanence du monde et aussi cette fragilité du monde et de la nature. Il part à l'affût en fait pendant des heures, notamment il aime énormément lorsque le soir tombe ou l'aube, ou ces heures un petit peu indistinctes, on ne sait plus si c'est l'aube ou le crépuscule, à l'affût du vivant. Et ce qui est extraordinaire dans ces calligraphies, c'est qu'il y a aussi une métamorphose. Comme on le voit sur une des calligraphies qu'on a mis en avant, c'est à un moment donné, il y a un oiseau qui s'envole et l'oiseau, et en même temps, devient roche et on ne sait pas si c'est la vire ou l'oiseau. Enfin, les deux sont confondus et c'est absolument sublime. Et c'est vrai, quand on se confronte aux originaux qui sont exposés au musée de l'Ancien Évêché, l'exposition est absolument saisissante. Il y a également une autre très très belle calligraphie que j'aime énormément, c'est « La dernière nuit, qu'emporteras-tu ?» C'est un triptyque. On voit la nuit qui s'enfonce en fait, et le paysage qui s'estompe, qui devient noir, et on ne sait plus ce que la nuit va garder en fait de la journée. C'est d'une immense sensibilité et c'est juste magnifique. Je recommande à tous de s'y presser.
Oui, on va aller au musée de l'Ancien Évêché de Grenoble tous, hein, parce que vraiment ça vaut plus que le détour. Là, il faut s'y arrêter pleinement. Et puis d'ailleurs, ce numéro de l'Alpe nous propose donc plein d'autres choses à découvrir. Numéro 90, montagne durable, point d'interrogation. Un numéro qui nous interroge donc sur la montagne, sur notre relation avec elle. Revue disponible en kiosque actuellement. Merci beaucoup Sophie Boisard de nous l'avoir présenté et je pense que nous nous retrouverons très probablement en fin d'année pour le numéro à venir.
Merci à vous. Le numéro à venir qui portera sur neige et glace. Donc on sera sur un sujet assez proche mais abordé encore d'une toute autre façon.
Oui, et puis qui sera de saison pour l'occasion.
Exactement.
Merci encore beaucoup. Au revoir.
Au revoir.